cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 15 décembre 1994.
Par cet amour, nous découvrons combien il adoration tout enveloppée d'amour. C'est le petit enfant du père qui adore son père. En étant totalement abandonné dans le bon plaisir de son père. Et c'est le fils bien-aimé du père qui donne tout à son père, regardant comment, dans le Christ à la croix, ce lien avec son père lui permet d'adorer en offrant toute sa vie. Par amour pour le Père. Et nous sommes appelés à la même adoration à travers le même amour. Tandis que l'adoration religieuse, c'est la petite créature qui découvre sa dépendance radicale à l'égard de son Créateur, qui est son Père. Puisque c'est par pur amour que Dieu a créé mon âme et que Dieu réclame, demande que je l'adore en esprit, en vérité, que je l'adore dans la pleine lumière de cette dépendance radicale à son égard. Cette remise totale de toute ma volonté entre ses mains. Et cette adoration me fait découvrir que le Créateur qui crée mon esprit, un esprit fait pour la vérité et pour aimer, je découvre le Père, tandis que au plan chrétien je découvre immédiatement mon Père par le don qu'il fait de son Fils bien-aimé. Donc le moyen terme par lequel je découvre la paternité est tout autre. D'un côté c'est créateur d'un esprit, de mon esprit, et de l'autre point de vue, c'est celui que le Fils bien-aimé adore et contemple. Contemple et adore, pour respecter l'ordre. Comment distinguer le lien de filiation découvert et vécu dans l'adoration religieuse à l'égard du Créateur Père, du lien de filiation qui nous a été révélé par le Christ à l'égard de la première personne de la très sainte Trinité. Là encore, ceci doit être vu à partir de l'éthique chrétienne pour mieux comprendre ce que le christianisme apporte de plus par rapport à l'éthique religieuse. Donc cela ne fait pas partie de l'étude philosophique de l'éthique religieuse. Comprenez bien, je dis ça pour que vous compreniez qu'il ne faut pas tout. Il faut bien comprendre que l'éthique religieuse ne présuppose pas la foi et que l'éthique religieuse, c'est tout simplement ayant découvert l'existence d'un Dieu créateur, je découvre un Dieu père à cause de l'esprit. Il est père parce qu'il me communique une vie qui est semblable à la sienne. Je découvre que je suis créé à l'image de Dieu. Mais donc, Dieu n'est pas seulement le Créateur, il est le Père de mon esprit. Et que mon esprit est fait pour la recherche de la vérité et d'aimer. Je découvre donc que ma filiation à l'égard du Dieu créateur, c'est d'avoir une vie consciente dans la vérité et dans la recherche de la vérité, et une vie qui, recherchant la vérité, comprend que ce qu'il y a de plus grand pour la créature spirituelle, c'est de reconnaître qu'on est capable d'aimer le Père, d'aimer Dieu comme Père, et donc de s'abandonner entièrement au bon plaisir du Père. Et le fruit de l'adoration, c'est l'abandon. Et l'abandon tel qu'il est comme un fils bien-aimé d'un amour naturel, mais d'un amour qui vient de Dieu, qu'il est le fils bien-aimé de Dieu Père. Donc la filiation au plan éthique religieuse est le fruit direct de cette adoration et de cette remise complète de tout moi-même entre les mains du Père. Le Fils, c'est celui qui adore pour aimer. Dans cette filiation naturelle, il adore pour aimer, il adore pour contempler. Et il contemple pour aimer aussi. Il découvre de plus en plus que Dieu, dans sa toute-puissance, est avant tout amour. Il est Père. La qualité dominante du Créateur, c'est la toute-puissance. La qualité dominante du Père, c'est l'amour. Et donc, on est fils que quand on met l'amour, qu'on découvre à travers et au-delà de l'adoration. On adore le Créateur, on aime le Père. Et la filiation se découvre à travers cet amour. Au plan éthique chrétienne, la filiation se découvre à travers le don du Fils qui nous est fait à la croix. Et nous comprenons que si le Père nous donne son Fils de cette manière si étonnante à la croix, c'est pour que nous puissions vivre comme lui, la même vie. Il nous sauve, et il nous sauve en faisant de nous une créature nouvelle par la grâce. Et par la grâce, il nous donne la possibilité pour nous d'aimer le Père comme lui-même l'aime. Donc, vous voyez, il y a un ordre différent et nouveau, puisque la grâce chrétienne nous permet de regarder le Père dans le regard du Fils, et nous permet de regarder le Père comme le Fils bien-aimé le regarde. C'est toute la différence entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. Ça, c'est capital de comprendre ça. Parce que saint Augustin disait de son temps, et il le dirait encore plus aujourd'hui, des quantités de chrétiens vivent religieusement, mais pas chrétiennement. Et ça, c'est très juste. Tant que notre vie reste au niveau de la vertu de religion, si grand que ce soit, c'est très grand, on ne vit pas encore au niveau chrétien. On vit au niveau chrétien quand on comprend qu'on doit aimer le Père comme le Fils bien-aimé l'aime. Par lui, avec lui et en lui. le Créateur, le Père de mon âme, et le désir de la vision béatifique, le désir du face-à-face avec le Père. Ceci, c'est très important. Il faut ne pas tomber dans le fidéisme. Saint Thomas parle du désir de voir Dieu en théologien. Ne l'oublions jamais. Et il le dit expressément dans son traité de la foi. La foi est nécessaire pour que j'aie le désir de voir Dieu face à face. Ça, c'est la nécessité de la foi. Sans la foi, donc désir naturel au niveau religieux, j'ai le désir de connaître Dieu, mais je sais que par moi-même, je suis incapable de voir. Le désir de la vision béatifique. Il y a le désir de voir Dieu comme source de mon être, comme créateur et comme le père de ma vie intellectuelle, comme père de cette recherche de la vérité et comme père de mon cœur. texte très important à bien voir. Il faut revenir tout le temps là-dessus. Hein. Ça fait partie de ces difficultés qu'on a de bien comprendre. Le désir naturel de voir Dieu. Et le désir naturel, ou le désir chrétien, par la foi et grâce à la foi du face-à-face. Alors, dernière question. Est-ce que, du point de vue moral, on peut et on doit faire don de ces organes à des personnes qui en ont besoin pour vivre? Quand surviendra notre décès? Oh, question très délicate. Alors, on ne peut pas traiter ça en soi. Ça fait partie de ces... C'est sûrement pas une obligation. Mon corps, guenille, comme dirait Molière, mais guenille qui m'est cher, et qui m'appartient, et qui est mon être. C'est pas seulement mon avoir, c'est mon être. Alors c'est là toute la question, ça. Votre avoir, hein. Si quelqu'un à côté de vous meurt de faim et que vous avez une grosse fortune, votre devoir, c'est donc... Alors ne dites pas, je suis très gros dans mon corps, des réserves de graisse. Il y a des gens qui meurent de faim, je le donne. Non, parce que c'est votre être et ce n'est pas votre avoir. Votre corps n'est pas votre avoir, c'est votre être. C'est pour ça que vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. C'était votre avoir. Ah oui, vous avez une canne, vous avez le droit de la casser. Vous avez un instrument à côté de vous, c'est votre avoir. Vous en faites ce que vous voulez, vous en usez comme vous voulez. Votre corps, vous ne pouvez pas en user comme vous voulez. Il y a un usage mauvais qui le détruit parce qu'il n'est pas conforme à la noblesse de notre corps, la noblesse humaine de notre corps. Vous voyez, c'est là où le point de vue est très délicat. De sorte que, vous voyez, ne dites pas que je conclue. Dites tout simplement que dans chaque cas particulier, faut regarder et être attentif. C'est évident que quand la carcasse vieillit, le don est de plus en plus misérable. Quand la carcasse est jeune, le don est savoureux. C'est très curieux, parce que plus on vieillit, plus le corps est être. C'est un fait. Quand vous regardez l'agonie des vieillards et l'agonie des enfants, les enfants meurent très facilement. Les vieillards meurent très difficilement. Parce qu'il y a un enracinement. Et donc ils sont de plus en plus être. Mon corps et mon être par mon âme, par l'information de mon âme. Si mon âme n'était que liée au corps, que juxtaposée, ce serait mon avoir. Pour Platon, mon corps est un avoir. Pour Aristote, mon corps est mon être. C'est toujours très important de saisir ça. Alors, nous allons continuer l'éthique religieuse. Ça, c'est un nota bene, hein, ce que je vous ai dit. Il faut mettre nota bene. Relation entre éthique chrétienne et éthique religieuse. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord que c'est bon pour nous. J'enseignerai dans une université. Je ne ferai pas l'éthique chrétienne, par la réflexion sur notre vie chrétienne. Et c'est bon d'essayer de comprendre par le fait même les exigences propres de l'éthique religieuse. Parce que l'éthique religieuse, elle devrait être l'éthique de tout homme bien-né. Le génos, l'être bien-né. Un homme devrait toujours vivre de l'éthique chrétienne. Ce n'est pas confessionnel. parce que la philosophie là ne peut plus dire grand chose. Elle montrera nécessairement en fouement ce que le psychologue, lui, ne peut pas dire. Le psychologue ne peut pas distinguer ce qui est refoulement et ce qui est naturel. Ça, c'est la limite de la psychologie. Et c'est capital de ne pas confondre les deux. Il y a un appétit naturel et il y a un appétit de refoulement. Le refoulement crée des appétits imaginatifs. C'est le propre du refoulement. Puisque à la place de désirer un bien réel, on désire des compensations. C'est le propre du refoulement. De nous mettre dans un état où on veut à tout prix réparer. De revendications. Des quantités de revendications sont l'effet du refoulement. Alors ce serait très intéressant au plan philosophique, de regarder ce que ce refoulement à l'égard de l'adoration, à l'égard de la contemplation naturelle, doit créer en nous quelque chose de très radical comme refoulement, puisque notre nature humaine n'atteint plus ce pourquoi elle est faite. orgueil. Alors, cette exaltation fait que ceux qui sortent de là, s'ils ne sont pas très, très réalistes, veulent faire l'expérience. Et ils la font. On leur demande pourquoi ils tuent. Pour le plaisir de tuer. Et avoir l'expérience de tuer. Mais c'est effrayant. Une humanité qui veut avoir l'expérience de tuer. Et je crois que ça, c'est l'exaltation ultime et dernière de l'homme. Être le maître de la mort et de la vie. Alors, l'exaltation de la vie, on voit très bien, prendre possession du premier instant. Prendre possession du dernier instant. Et puis, l'expérience de la mort. Allez, pourquoi?